Chapitre 3 L'anabiose. Margaret Drake tressaillit. Il lui semblait reconnaître cette voix. Sûrement, elle l'avait déjà entendue, mais où, quand, en quelles circonstances, elle n'aurait pu le dire. Elle n'eut d'ailleurs pas le temps de rappeler ses souvenirs, son attention étant attirée autre part. Brutalement, de grosses mains écartèrent la couverture dans laquelle elle était enroulée. Au-dessus d'elle, la jeune fille distingua le ciel étoilé. Elle vit qu'elle se trouvait dans une grande baleinière, maniée par quatre gigantesques nègres vêtus de toile blanche. À l'arrière, un homme était assis, enveloppé dans un perméable, dont le capuchon était rabattu sur les yeux. Margaret regarda l'individu qui venait d'écarter la couverture. Une gigantesque brute à cheveux noirs roux, aux yeux verts qui luisaient dans l'ombre. Ses grosses mains poilues desserrèrent un peu la bande de toile bâillonnant la prisonnière, puis il se releva et, en silence, alla s'asseoir auprès de l'homme à l'imperméable. « Plus vite, chien !» grommela en allemand ce dernier. De nouveau, Margaret tressaillit. Oh, elle en était sûre maintenant. Elle reconnaissait cette voix. Mais impossible de dire à qui elle appartenait. En vain, la jeune fille écarquilla ses yeux. Elle ne put distinguer les traits du mystérieux personnage. Étendue comme elle était, sur le dos, au fond de l'embarcation, elle ne pouvait apercevoir que le ciel et les bordages du canot. Elle se résigna à attendre. Où la menait-on ? À bord d'un des schooners ancrés en rade, sans doute. Sans que rien eût pu justifier cette hypothèse, Margaret était sûre, certaine, que ses ravisseurs étaient les mêmes que ceux qui avaient fait disparaître son père. Et qu'où voulait-il d'elle ? Cela, elle se le demandait. S'il désirait sa mort, il n'aurait eu qu'à la tuer, au lieu de courir les risques de cet enlèvement, quitte à jeter ensuite son cadavre à la mer. Les requins ne manquent pas aux îles Bonin. Margaret Drake en était là de ses réflexions, lorsque la voix de l'homme à l'imperméable résonna de nouveau. « Tiens bon, partout !» Les rameurs lâchèrent leurs avirons. Presque aussitôt, un léger choc ébranla le canot, et Margaret distingua au-dessus d'elle les vergues d'un navire dont l'embarcation venait d'accoster l'échelle. Sur l'ordre de l'homme à l'imperméable, deux des matelots noirs soulevèrent la prisonnière et la montèrent sur le pont du bâtiment inconnu. Margaret reconnut immédiatement le navire, c'était l'Adler, le petit yacht en partance pour les îles Salomon. Pas d'erreur possible. La jeune fille put voir le tuyau jaune, les deux mâts, les tout roufles d'acajou, c'était bien l'Adler. Elle n'eut pas le temps d'en observer davantage, car les deux noirs qui la portaient s'engouffrèrent dans une écoutille, descendirent une douzaine de marches et pénétrèrent dans un petit salon prétentieusement meublé, dont les murailles disparaissaient sous des tentures de soie voyantes. L'homme à l'imperméable, qui précédait les deux nègres, se retourna et du geste leur indiqua un des divans sur lequel ils déposèrent la jeune fille. Après quoi, ils se retirèrent sans bruit. L'inconnu étendit la main vers un commutateur qu'il tourna. Un lustre de bronze doré fixé au plafond s'irradia. L'homme, d'un revers de main, rabattit le capuchon dissimulant ses traits. Sa face apparut en pleine lumière. Une face rasée, au menton en avant, au front large, aux lèvres minces, les cheveux partagés par une raie médiane étaient d'un blond filasse, les yeux d'un gris bleu avaient une expression dure, cruelle. L'homme, d'un geste vif, arracha le bâillon de la jeune fille. Il allait ouvrir la bouche pour parler, mais Margaret Drake le devança. Elle le reconnaissait enfin. « Monsieur Kressler » s'écria-t-elle, « vous ?» Karl Kressler avait été pendant 10 ans l'associé de son père. Pendant 10 ans, il était venu chaque dimanche chez Francis Drake. Puis il y avait plusieurs années de cela, Marguerite ne l'avait pas vu. Oui, Chrysler et moi, nous nous sommes séparés, avait expliqué Francis Drake à sa fille. Nous n'avons pas les mêmes idées. Un garçon intelligent, mais sans scrupules, il finira milliardaire ou convict. Depuis, Drake n'avait plus jamais parlé de son ex-associé. Mais Margaret avait su, par des conversations entendues, par les journaux, et que Carnton Dresser était devenu un des plus téméraires spéculateurs de l'Union. Et c'était ainsi qu'elle le revoyait, un bandit. Mais le ton indigné de Margaret Drake n'avait en rien ému Chrysler. Il s'inclina, impassible. « Je suis heureux que vous m'ayez reconnu, dit-il. Cela évitera des préliminaires longs et ennuyeux. Ah, voilà le gâteau qui ronfle. Dans 10 minutes, nous serons en route. » Un bruit de moteur venait en effet de se faire entendre. Margaret, bouleversée, ne répondit pas, attendant la suite. Chrysler, après avoir écouté l'espace de 2 ou 3 secondes, poursuivit de sa même voix calme et dure. « N'ai pas besoin de vous dire, miss, que vous êtes ici en mon pouvoir absolu. Inutile d'espérer quelque secours. Vous ne quitterez ce bâtiment que lorsqu'il me plaira. Libre à vous de penser ce que vous en voudrez, mais je veux avant tout vous faire plaisir. Sachez donc que votre père, Francis Drake, est à bord. »
« Mon père à bord ?» s'exclama Margaret sursautant.
« Oui, c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Vous le verrez demain ou après-demain. Cela ne dépend pas de moi. Vous vous doutez bien que je ne pensais pas vous voir aujourd'hui. C'est le hasard qui a tout fait. Moi, j'en ai profité. J'étais heureux de tenir votre père, mais mon bonheur est complet maintenant que vous êtes à bord. La partie devient belle pour moi. »
Je ne comprends pas.
Vous comprendrez. C'est moi, je viens de vous le dire, qui ai enlevé votre père à Chicago. C'est moi qui suis l'auteur du câblogramme et l'agent de change Gilson. C'est moi qui vais arracher à 1000 prix les titres de la Margaret Dying Co. C'est une spéculation, miss. Moi et votre père, nous avions chacun juré d'avoir la peau de l'autre. Et pour un peu, François Drake avait la mienne. C'est un homme, je n'en disconviens pas, mais il a des scrupules, de la conscience et autres fariboles. Moi, je vais droit au but. Bref, j'ai acquis à vil prix les actions de la Amalgamated Dying Co. Et Drake est à demi ruiné. Mais j'ai autre chose à obtenir de lui. Il contrôle la Pennsylvania et Saint-Louis Railway, le Grand Turc et Mexico, et plusieurs autres affaires. Je les veux. Et si Drake ne veut pas mourir, il accédera à mes exigences. Et je compte sur vous, miss, pour le conseiller d'accepter. D'ailleurs, j'ai encore une autre idée qui conciliera tout. » Carl Chrysler s'interrompit. Galamment, il s'inclina, et un mince sourire fendant ses lèvres prononça « Miss Margaret Drake, j'ai le très grand honneur de vous demander votre main. »«
Jamais !»
éclata la prisonnière, hors d'elle-même. « Nous verrons cela, » fit Chrysler sans s'émouvoir. « Voilà la machine en marche. Je vais vous débarrasser de vos liens. Vous pourrez voir votre père en attendant de pouvoir lui parler. » Sa vie vous suggérera quelques salutaires réflexions. » Margaret ne répondit pas. Elle était trop indignée, trop bouleversée pour cela. Et puis, la pensée de voir ce père qu'elle croyait mort l'empêchait de penser à autre chose. Chrysler, à l'aide d'un court poignard qu'il tira de son gousset, coupa les cordelettes ligotant la jeune fille. Puis, arrondissant le bras, il l'offrit à sa victime. Margaret Drake, péniblement, s'adressa. « Je vous suis, monsieur, » dit-elle en regardant le bandit en face. Chrysler n'insista pas et marcha vers la porte du petit salon. Le battant s'ouvrait sur une coursive, laquelle aboutissait à une porte de fer que Chrysler ouvrit. Margaret vit devant elle un second couloir aux parois de tôle qui s'arrêtait devant une nouvelle porte. Chrysler, ayant tiré de sa poche une petite clé semblable à celle d'un coffre-fort, l'introduisit dans la serrure et attira le panneau à lui. À sa grande surprise, Margaret vit que le battant avait une épaisseur de près de 30 cm. Sa face intérieure était garnie de cire de liège agglomérée. Et par l'ouverture, une onde de froid se répandit dans le couloir, faisant frissonner la jeune fille. « Venez, miss !» dit Chrysler de sa voix calme et dure. Margaret instinctivement obéit. Elle vit Chrysler tourner un commutateur avant de franchir le seuil. Deux lampes électriques brillèrent. Derrière le bandit, Margaret Drake passa la porte. De l'autre côté, c'était une grande cabine, sans autre ouverture que celle par où la jeune fille venait d'entrer. Plafond, plancher, cloison étaient garnis de plaques de cire de liège agglomérées. Tout autour du bizarre compartiment, des rangées de tuyaux de cuivre garnis d'ailettes étaient disposées. Mais la jeune fille ne vit rien de tout cela, car au centre de la pièce, trois hommes étaient étendus, rigides, blafards, sur un tapis de liège. Et Margaret Drake reconnaissait un de ces hommes semblable à des morts. « Ah, mon père !» s'écria-t-elle en frissonnant. « Lui-même, miss, mais laissez-moi refermer la porte. Il faut à aucun prix que la température s'élève. » Et d'un bond, Chrysler repoussa le panneau qui s'encastra dans la paroi avec un bruit sourd. Margaret s'était laissée tomber à genoux du côté du corps de son père. Elle lui prit la main, mais eut un brusque recul en sentant sous ses doigts un contact glacé. « Du calme, miss !» fit Chrysler en saisissant la jeune fille par le bras. « Votre père n'est pas mort. Il est même, je le présume, en meilleure santé que jamais. Il est en état d'anabiose. »« Une merveilleuse invention, miss !» « Veuillez m'écouter, je vous prie. L'anabiose est un état léthargique spécial obtenu par la congélation. Les fonctions de la vie sont suspendues, le sang cesse de circuler dans les vaisseaux. La vie organique s'arrête, mais la vie persiste. Regardez ce thermomètre, il marque 8. Or, la vie organique cesse à 6 et la vie elle-même à 10. » Et cette anabiose peut être prolongée plusieurs fois. Oh, je vous avoue, miss, que je ne suis pas l'inventeur du procédé. Il a été trouvé par le professeur Russ Bakhmetiev, lequel ne l'a appliqué qu'à des souris. Ces Russes sont des imbéciles. Ce Bakhmetiev voulait se servir de son invention pour guérir les gens, vous comprenez? À 6 degrés au-dessous de zéro, l'organisme est pour ainsi dire stérilisé. Tous les microbes qu'il renferme sont tués, et le sujet, une fois décongelé, est débarrassé de ses maux. Eh bien, moi, j'ai trouvé mieux. Le procédé m'a servi à des fins plus utiles. Je l'ai perfectionné. J'ai enlevé votre père à Chicago, je l'ai soumis à une basse température et l'ai ainsi amené sans risque dans un wagon réfrigérant jusqu'à Frisco, où je l'ai embarqué à bord de mon yacht. Il en a été de même de ces deux gentlemen que vous voyez là. Dès ce matin, je vais faire le nécessaire pour ranimer votre père. Oh, cela demandera plusieurs heures et des soins méticuleux. Mais Francis Drake n'a rien à craindre, le procédé est sûr. Demain, vous pourrez lui parler et j'espère le convaincre. En devenant son gendre, j'arrangerai tout le différent. Je suis patient. « Si vous refusez, j'attendrai. Vous finirez par accepter, j'en suis sûr. » Margaret Drake resta sans voix. Le froid intense qui régnait dans le compartiment, l'émotion, la rage, la haine, la paralysaient. Devant elle, son père gisait inanimé et glacé. Vivait-il seulement? N'était-ce pas simplement son cadavre qu'elle voyait? Elle regarda Chrysler. Le bandit était impassible et contemplait les trois corps rigides d'un air satisfait.
Moi, votre femme, articula enfin la jeune fille, mais jamais, plutôt 20 fois la mort.
Je n'en crois rien, fit simplement le bandit. Et maintenant, miss, il faut nous retirer. Je ne veux pas m'enrhumer, ni vous exposer à prendre mal. Allez, demain, vous parlerez à votre père. Venez, je vais vous conduire à votre cabine. Margaret Drake eut un mouvement de rage, mais instantanément, l'inutilité de toute résistance apparut à son esprit. Il fallait attendre. Une fois son père revenu à la vie normale, elle agirait. En silence, elle sortit, suivie de Chrysler, qui, ayant éteint les deux ampoules électriques, jeta un regard sur le thermomètre et referma la porte. À sa suite, Margaret Drake gagna la cabine qui lui avait été réservée. Une luxueuse pièce, tendue de soie mi-coise, mais dont la porte était garnie à l'extérieur de deux gros verrous et dont les deux hublots étaient munis de grilles d'acier. « L'on vous apportera à déjeuner à 8 heures, » fit le bandit. « Il y a du linge dans les armoires. Je l'ai acheté hier à votre intention. Si vous avez besoin de quelque chose, sonnez. » Il s'inclina, sortit et referma la porte sur lui. Margaret se laissa tomber sur le divan. Elle était épuisée, à bout de force, morales et physiques. Machinalement, elle regarda vers les hublots. Elle faillit lâcher une exclamation d'épouvante autant que de surprise. Deux mains venaient de se refermer sur les barres de fer défendant une des ouvertures. Entre les grillages, une face humaine apparut. Margaret, indécise, si elle ne rêvait pas, se dressa et bravement marcha vers le hublot. « Et qu'est-ce que... » commença-t-elle. Mais la bouche de la face inconnue s'ouvrit. Une adjuration en sortit. « Chut ! Pour l'amour de Dieu, miss, écoutez-moi !»